Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labourroire. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Un barrage contre le Pacifique, de Marguerite Duras. Paru en 1950, durant la guerre d'Indochine, le roman de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, apparaît comme un témoignage sur la vie coloniale dans les années 1930. Mais c'est surtout une fiction, fondée sur un travail de mémoire. Duras reconstruit la vie tragique de sa mère, dans la décennie 1920-1930, dans un bungalow, perdu près des rivages marécageux du sud indochinois. Le titre illustre de ce fait la résistance perdue d'avance contre des forces plus puissantes, le système colonial et les caprices de la nature. Sa mère, veuve, vit avec ses deux enfants, Joseph, 20 ans, et Suzanne, 17 ans. Jadis, la mère a investi toutes ses économies pour obtenir de l'administration coloniale le droit d'acquérir des rizières grâce auxquelles elle espérait faire fortune. Mais les terres régulièrement inondées s'avèrent incultivables. D'amertume et de colère, la mère tombe malade. Ruinée, elle mène avec ses enfants une vie de pauvreté et d'ennui. Malgré le mépris dont on l'accable, Monsieur Joe, dont la richesse tranche sur la misère ambiante, tombe sous le charme de Suzanne. On tente d'obtenir qu'il l'épouse. En vain. Alors, faute de mieux, on accepte et on provoque ses cadeaux. Suzanne parvient ainsi à lui extorquer une bague ornée d'un diamant, qui, pense-t-on, va assurer la fortune de la famille. Monsieur Joe est congédié et le trio part pour la ville afin de vendre le diamant. À la ville, la famille se désagrège. La mère n'est pas parvenue à vendre le diamant. De plus en plus malade, elle sombre dans le désespoir et meurt bientôt. Joseph disparaît pendant plusieurs jours. On apprendra qu'il est tombé éperdument amoureux d'une femme, Lina. Suzanne passe alors la plus grande partie de son temps dans les salles de cinéma et se laisse prendre à son pouvoir merveilleux. Elle se donne à un jeune voisin, Agosti. Suzanne pourrait rester auprès d'Agosti, qui s'est mis à l'aimer. Mais comme son frère, elle choisit le départ définitif pour la ville, pour une vie nouvelle. Le roman établit les relations entre les rêves, les désirs et les espoirs des individus et les réalités sociales, porteuses de normes et de contraintes. On est en plein roman d'apprentissage. Ce genre littéraire, pratiqué notamment au XIXe siècle par Stendhal, Balzac ou Maupassant, qui s'attache à montrer la progression d'un héros, initié par les épreuves qu'il traverse. Il est censé perdre sa naïveté, mieux comprendre sa société de façon à y réussir. Un barrage contre le Pacifique marque le premier grand succès de Marguerite Duras en 1950. Il est adapté pour le cinéma par René Clément en 1958. De son vrai nom, Marguerite Donadieu, Marguerite Duras est née le 4 avril 1914 à Dien Dinh, une petite ville de la banlieue nord de Saigon, dans le territoire colonial que l'on nomme alors la Cochinchine. Sa mère est institutrice, mais son père, professeur de mathématiques, rentre en France en 1918, où il meurt en 1921. Cette absence entraîne pour la famille, Marguerite et ses deux frères, Pierre l'aîné, Paolo le plus jeune, bien des difficultés. Un barrage contre le Pacifique les évoque, notamment cette période où la mère s'installe dans une concession, dans le delta du Mékong, qui conduit à une faillite financière. Mais l'Indochine, où elle reste jusqu'à son baccalauréat en 1932, marque à jamais l'écrivaine et sert de cadre à plusieurs de ses œuvres. De retour en France, après ses études de droit, de mathématiques et de sciences politiques, elle se marie en 1939 avec Robert Anthelme, étudiant en droit, fils de sous-préfet et de milieu bourgeois. Cela marque le début de son engagement politique, aux côtés du Parti communiste français qu'elle poursuit pour ses activités dans la résistance. Elle démissionne du ministère des colonies en novembre 1940. Le couple s'installe à la rue Saint-Benoît, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Marguerite se met à l'écriture et publie son premier roman, Les Impudents. Elle le signe du nom de Duras, le village où se trouve la maison paternelle dans le Lot-et-Garonne. Elle se met au service de la résistance, se lie à François Mitterrand, alias Morland, qui dirige le Rassemblement national des prisonniers de guerre. Le 1er juin 1944, son groupe tombe dans un guet-apens. Robert Anthelme est arrêté par la Gestapo, tandis que Marguerite Duras s'échappe. Au lendemain du débarquement des Alliés, elle apprend que son mari a été emmené à Compiègne, d'où partent les trains pour les camps de concentration. Robert est déporté à Buchenwald et ensuite à Dachau. Mais il en reviendra en avril 1945. Le couple divorce en avril 1947. Duras épouse Dionis Mascolo, militant politique et écrivain, dont elle se sépare quelques années après. Mais si elle se trouve exclue du Parti communiste français en 1950, elle s'engage notamment lors des guerres d'indépendance coloniale, en Indochine, puis en Algérie. Elle signe, en septembre 1960, le Manifeste des 121, déclaration sur le droit de l'insoumission, qui dénonce la guerre d'Algérie. Plus tard, elle participe activement à la révolte de mai 1968 et au combat féministe, en signant le Manifeste des 343, s'engageant pour réclamer le droit des femmes à l'avortement. Parallèlement, elle construit une œuvre littéraire considérable, roman, mais aussi pièces de théâtre. Ses romans, tel Moderato cantabile 1958 et Le ravissement de Lowenstein en 1964, se font moins classiques avec des recherches narratives qui font qu'on la classe alors parmi les écrivains du nouveau roman. Elle s'intéresse aussi au cinéma, d'abord comme dialoguiste, par exemple pour Hiroshima mon amour en 1959 d'Alain René, puis comme réalisatrice pour India Son en 1975, qu'elle reprend ensuite au théâtre, ou pour Le Camion en 1977. Elle rencontre un immense succès public avec L'Amant, prix Goncourt en 1984, autofiction sur les expériences sexuelles et amoureuses de son adolescence dans l'Indochine des années 1930, qu'elle réécrira en 1991 sous le titre de L'Amant de la Chine du Nord. Mais elle doit aussi lutter contre son alcoolisme. Elle effectue une cure de désintoxication en 1982, ce qui n'empêche pas sa santé de se dégrader lentement. Elle partage sa fin de vie à Trouville-sur-Mer avec Yann Andrea, de 38 ans son cadet, une relation à la fois passionnée et tourmentée. Yann Andrea est à la fois le compagnon et le secrétaire particulier de Marguerite Duras. Il restera auprès d'elle jusqu'à sa mort en 1996. Il racontera ensuite l'histoire de leur relation dans le livre « Cet amour-là ». C'était la grande époque. Des centaines de milliers de travailleurs indigènes saignaient les arbres des 100 000 hectares de terre rouge, se saignaient à ouvrir les arbres des 100 000 hectares de terre qui, par hasard, s'appelaient déjà rouges, avant d'être la possession des quelques centaines de planteurs blancs aux colossales fortunes. Le latex coulait, le sang aussi. Mais le latex, seul, était précieux. Recueilli et recueilli, payait. Le sang se perdait. On évitait encore d'imaginer qu'il s'en trouverait un grand nombre pour venir un jour en demander le prix. Il y avait beaucoup d'enfants dans la plaine. C'était une sorte de calamité. Il y en avait partout, perchés sur les arbres, sur les barrières, sur les buffles, qui rêvaient, ou accroupis au bord des marigots, qui pêchaient ou vautraient dans la vase à la recherche des crabes nains des rizières. Dans la rizière, aussi, on en trouvait qui pataugeaient, jouaient ou nageaient. Et à la pointe des jonques qui descendaient vers la grande mer, vers les îles vertes du Pacifique, il y en avait aussi qui souriaient, ravis, enfermés jusqu'au cou dans ces grands paniers d'osier, qui souriaient mieux que personne n'a jamais souri au monde. Et toujours avant d'atteindre les villages du flanc de la montagne, avant même d'avoir aperçu les premiers manguiers, on rencontrait les premiers enfants des villages de forêt, tout enduits de safran contre les moustiques, et suivis de leurs bandes de chiens errants. Car partout où ils allaient, les enfants traînaient derrière eux leurs compagnons, les chiens errants, efflanqués, galeux, voleurs de bas secours, que les Malais chassaient à coups de pierre et qu'ils ne consentaient à manger qu'en période de grande famine, tant ils étaient maigres et coriaces. Seuls les enfants s'accommodaient de leur compagnie, et eux n'auraient sans doute eu qu'à mourir s'ils n'avaient pas suivi ces enfants, dont les excréments étaient leur principale nourriture. Dès le coucher du soleil, les enfants disparaissaient à l'intérieur des paillotes où ils s'endormaient sur les planchers de lattes de bambou après avoir mangé leur bol de riz. Et dès le jour, ils envahissaient de nouveau la plaine, toujours suivis par les chiens errants qui les attendaient toute la nuit, blottis contre les pilotis des cases dans la boue chaude et pestilentielle de la plaine. Il en était de ces enfants comme des pluies, des fruits, des inondations. Ils arrivaient chaque année par marée régulière, ou si l'on veut, par récolte ou par floraison. Chaque femme de la plaine, tant qu'elle était assez jeune pour être désirée par son mari, avait son enfant chaque année. À la saison sèche, lorsque les travaux des rizières se relâchaient, les hommes pensaient davantage à l'amour, et les femmes étaient prises naturellement à cette saison-là. Et dans les mois suivants, les ventres grossissaient. Ainsi, outre ceux qui en étaient déjà sortis, il y avait ceux qui étaient encore dans les ventres des femmes. Cela continuait régulièrement à un rythme végétal, comme si d'une longue et profonde respiration, chaque année, le ventre de chaque femme se gonflait d'un enfant, le rejetait, pour ensuite reprendre le souffle d'un autre. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.